D'aller suivre est une rediffusion.
Autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour remonter le temps et tous nos préjugés sur les femmes de la préhistoire, si longtemps oubliées ou effacées du tableau de chasse, jusqu'à ce que les avancées récentes en archéologie, en paléo, en génétique, mais aussi et surtout dans les mentalités des préhistoriens et des préhistoriennes, nous révèlent preuve à l'appui ce qu'on refusait de penser jusque-là, que l'homme préhistorique est aussi une femme. Et quelle femme? C'est toute la question. On l'imaginait faible, soumise et sans défense. On la découvre chasseresse et puissante, maîtrisant les savoirs et les arts, parée et vénérée. Mais jusqu'où nous entraînera Lady Sapiens, pour reprendre le titre du livre et du documentaire inédit, conçu, réalisé et supervisé par nos invités. La préhistorienne Jennifer Kerner, le réalisateur Thomas Sirotto et le journaliste Éric Pincas. Lady Sapiens, entre science, fiction et réalité préhistorique, c'est à voir jeudi soir sur France 5 et c'est à lire dans un ouvrage paru aux éditions Des Arènes dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question comment représenter les femmes de la préhistoire sans tomber d'un cliché à l'autre. Bienvenue.
Les femmes sont les grandes absentes du livre de la préhistoire. Les oubliées du récit de nos origines. Comme si leur héritage s'était évanoui dans le temps. Comme si leur rôle avait si peu compté dans notre évolution. Qui étaient vraiment ces femmes des temps anciens? Étaient-elles faibles et sans défense? Soumises aux chasseurs tout-puissants? Mères nourricières accaparées par leurs nombreux enfants? Leur rang a longtemps été sous-estimé dans l'histoire de notre espèce. Il est temps de rouvrir le livre de la préhistoire pour révéler le véritable visage de Lady Sapiens.
Révéler le véritable visage de Lady Sapiens. Voilà ce que nous allons tenter de faire ensemble. Bonjour Jennifer Kerner.
Bonjour.
Bonjour Thomas Sirotto.
Bonjour.
Et bonjour Éric Pincas.
Bonjour.
Merci à tous les trois, l'équipe de choc de Lady Sapiens, d'être en direct avec nous sur RFI pour partager donc cette enquête inédite à tous les sens du terme sur la femme au temps de la préhistoire. Bien loin de l'image d'Épinal si longtemps véhiculée, on y découvre en images, notamment grâce à de nouvelles techniques issues de l'univers des jeux vidéo, on va y venir, mais aussi, et surtout grâce aux interventions des plus éminents préhistoriennes, préhistoriens, mais aussi paléontologues, généticiennes, anthropologues, qui depuis quelques années déjà mettent toujours une toute autre préhistoire des femmes et de la femme, Lady Sapiens carrément. On commence tout de suite par la question qui peut fâcher, est-ce qu'après avoir été si longtemps oubliée, invisibilisée, reléguée à un rôle totalement subalterne, est-ce qu'on n'est pas en train de partir un peu dans l'excès inverse et dans une surreprésentation ou dans d'autres clichés de femmes toutes puissantes? Avant de vous poser la question à vous, Jennifer Kerner, la préhistorienne, je vais vous la poser à vous, Thomas Sirotto, réalisateur de Lady Sapiens, après avoir été celui de Qui a tué Néandertal avec Jacques Malaterre et Éric Pincas ici présents. Alors, Thomas Sirotto, est-ce que cette question vous a affleuré l'esprit en produisant, en montant, en filmant, en écrivant Lady Sapiens?
Mais c'est tout à fait une question que j'ai posée notamment à Elisabeth Couturier, qui est notre critique d'art qui intervient dans le film. Comment on peut faire pour éviter de tomber dans, justement, les mêmes travers que les préhistoriens du 19e siècle? Et elle m'a dit cette réponse qui, moi, me paraît tout à fait juste. Eh bien, on n'a pas le choix. On est forcément, même en essayant d'être le plus objectif possible, on est forcément les enfants de notre époque et donc, eh bien, on est baigné dans notre culture. Et alors, on essaie bien évidemment d'être le plus objectif, d'être le plus rationnel, mais évidemment, voilà, on est aussi la proie des idées de notre époque.
Jennifer Kerner, alors vous êtes la préhistorienne, chercheuse au Muséum et au Musée de l'Homme. Vous avez également votre chaîne YouTube qui remporte un grand succès intitulée Boneless Archéologie, archéologie sans os. Mais qu'en pense donc la préhistorienne que vous êtes, qui est venue interviser, superviser cet ouvrage, hein, Lady Sapiens?
Alors, je me permets de préciser oui. que la supervision de l'ouvrage,
c'était
Sophie professeur.
De... Voilà, c'est Archambault le professeur Sophie Archambault de Beaune qui a supervisé toute l'œuvre scientifiquement. Mais vous,
Exactement.
Vous êtes occupée avec la masse d'entretiens, d'images rassemblées par Thomas et Eric. Vous êtes occupée d'écrire cet ouvrage, Lady Sapiens.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, avec évidemment la pleine conscience que... On est les héritiers des archéologues féministes des années 70, notamment nord-américaines, qui ont, comme vous le disiez très très bien, poussé le curseur un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu trop loin, j'ai envie de dire. Mais évidemment...
Avec la femme des origines, la déesse mère...
Le matriarcat
primordial. Le matriarcat primordial.
Exactement. Et je pense que c'est une étape finalement qui est difficile à esquiver. Elles l'ont fait pour nous dans les années 70. Aujourd'hui, on a des nouveaux outils, des outils de science dure qui nous permettent d'avoir des données certaines. Et autour de ces données certaines, à nous maintenant d'avoir le recul de l'interprétation pour éviter justement d'aller dans les travers dans lesquels elles sont allées, mais qui étaient des travers nécessaires et salvateurs, puisque à un moment
fallait
donné...
Il fallait bien passer de l'autre côté, il fallait bien changer totalement le regard
Exactement.
Et la vision.
Exactement. C'est très difficile de faire bouger les lignes en subtilité. Maintenant, nous, on peut revenir un peu en arrière.
Et puis j'ai envie de dire qu'on a quand même de la marge, en tout cas par rapport aux clichés à déconstruire. On en a plus à déconstruire qu'à reconstruire, faire passer la science et la préhistoire en train de se faire, tout en nous racontant des histoires. C'est un peu votre rôle à vous, Éric Pincas. Vous êtes donc co-auteur de ce film, co-écrit avec vous, Thomas Sirotto, passionné de préhistoire. Dans la vraie vie, vous êtes rédacteur en chef du magazine Historia. Et notre question du jour, hein, c'est comment représenter les femmes de la préhistoire? Comment justement en donner une représentation aussi juste que possible? Vous devez vous poser la question tous les jours aussi pour le faire passer au grand public, mais en même temps, il faut bien un peu de grands spectacles, on va le dire comme ça, mais pas trop non plus pour ne pas aller trop loin.
Bah, c'était l'obsession de notre travail de recherche pendant 3 ans, à savoir restituer ce portrait de la femme de la préhistoire, tout en donnant envie d'aller la regarder, d'aller à sa rencontre, de partir à sa rencontre, sans jamais trahir la science. Donc il fallait trouver cet équilibre. Je dis souvent qu'avec Thomas, lorsqu'on a écrit le scénario du documentaire, eh bien, on était un peu des équilibristes pour trouver justement ce dialogue nécessaire entre la science dure dont parlait Jennifer et cette narration un peu onirique aussi que nous avons essayé d'injecter dans le film pour apporter aussi cette magie, pour apporter aussi cette part de rêve qui appartient à la préhistoire.
C'est vrai que c'est sur un fil, hein, on entend les plus éminents préhistoriens, paléontologues, généticiens en parler. On voit, on va y venir dans des images totalement incroyables, on est tout près de... Alors, Lady Sapiens, la femme de la préhistoire, une femme de la préhistoire ou les femmes de la préhistoire, Thomas
clair. Lady Sapiens, c'est la femme de la préhistoire dans toute sa diversité.
Comme on dit, c'est l'homme préhistorique, finalement. C'est pour le mettre, parce que c'est une durée de temps extrêmement longue.
Ah bah oui, hein, le film et le livre traitent de la dernière période des chasseurs-cueilleurs nomades, c'est-à-dire de moins 40 000 ans jusqu'à moins 10 000 ans. C'est 30 000 ans d'histoire humaine, c'est gigantesque. Donc évidemment, on ne peut pas imaginer qu'on n'ait qu'un seul portrait de la femme, qu'elles étaient très diverses en fonction de leur lieu de vie, que ce soit géographique, hein, en montagne, sur les plaines, au bord de mer, sur les rivières, ou même dans le temps. Sur 30 000 ans, évidemment, elles ont forcément évolué, changé, eu des croyances différentes.
Autour de la question pourquoi l'homme préhistorique était aussi et d'abord peut-être une femme, rendons à César ou plutôt à Sophie, Claudine, Marilène et Jennifer ce qui leur appartient. Ce sont d'abord des chercheuses, on l'a dit, des préhistoriennes qui l'ont mise en lumière, comme la préhistorienne Sophie de Beaune, donc conseillère scientifique de ce film Lady Sapiens, mais aussi on peut penser en France à l'anthropologue Claudine Cohen, hein, qui a mis en lumière la femme des origines, ou encore la préhistorienne Marilène Patou-Matisse, que je vous propose d'écouter tout de suite. Son dernier ouvrage s'intitule L'homme préhistorique est aussi une femme, et cette spécialiste des néandertaliens et des néandertaliennes nous expliquait pourquoi, au cas où on aurait des doutes, ici même dans ce studio.
J'avais constaté, en travaillant d'ailleurs sur les néandertaliens, on disait toujours l'homme de Néandertal. Puis un jour, ça m'a agacé, et j'ai dit, mais l'homme de Néandertal est aussi une femme. Et c'est parti de cette réflexion et de ce constat que non seulement dans les écrits, mais aussi dans l'imaginaire, c'était toujours l'homme préhistorique. Alors on me disait, oui, mais tu sais, on met un grand H. Non, mais quand je dis l'homme préhistorique, on n'entend pas le grand H qui sous-entendrait les humains, hommes et femmes. Donc j'ai dit non, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Et ce qui m'a motivée, c'était, comme toujours, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, en fin de compte, on a toujours des représentations très genrées? C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois que l'on montre un tailleur d'outils, c'est un tailleur, c'est un homme. À chaque fois
c'est jamais une artisane.
Jamais une artisane. À chaque fois que l'on montre un chasseur,
c'est toujours un chasseur.
Un chasseur. C'est pas un chasseur ou une chasseresse. Quand on montre un peintre, par exemple le peintre de Lascaux, ce sont toujours des hommes. Et là, j'ai dit, mais c'est vraiment dans l'imaginaire, c'est vraiment ancré. Tout le monde pense ça. Tout le monde voit, en fin de compte, cette image un peu caricaturale qui a été maintes fois reprise de l'homme qui tire la femme par les cheveux pour l'emmener dans sa grotte.
Dans sa grotte, c'est ça, oui.
Et là, je me suis dit, pourquoi, en fin de compte, c'est aussi passé dans l'imaginaire?
Et vous avez, enfin, vous nous donnez des pistes hein, là-dedans, c'est que la préhistoire, elle a été inventée d'abord par des hommes, mais dans un siècle où, justement, on ne pouvait pas imaginer autre chose, finalement.
Exactement. Je suis revenue aux sources, si j'ose dire, de l'histoire de la préhistoire. Et ça commence vraiment en tant que discipline, la préhistoire, au milieu du 19e siècle. Et ce siècle, le 19e siècle, c'est un siècle où la femme est invisible. La femme, elle est mineure, elle est sous tutelle. Elle est subordonnée et surtout elle est pour la reproduction. Donc elle est invisible dans la société, à l'extérieur donc de son foyer. Et je me suis dit, bah, ce qui s'est passé, c'est que forcément, à cette époque-là, en plus, la préhistoire du départ n'est pas professionnalisée. C'est-à-dire que ce sont des amateurs qui sont des abbés, des médecins, des instituteurs.
Qui vont faire les premières
fouilles, les premières découvertes, les premières interprétations.
La préhistoire est souvent une histoire d'interprétation. Jennifer Kerner, vous voulez réagir à ce que vient de dire Marilène Batoumatis?
Oui, bah, Marilène s'est plongée dans son livre sur l'historiographie de notre discipline et c'est extrêmement éclairant. C'est-à-dire qu'en sciences humaines, on ne peut pas s'affranchir de l'esprit humain du chercheur qui élabore l'hypothèse. Hein.
Et donc les choses changent quand c'est une chercheuse et quand on a des outils, quand ce ne sont plus des gens d'église, hein, comme me faisait remarquer Éric Pincasse, et quand on a des outils, je pense notamment à la génétique, qui permettent d'aller plus loin, d'aller au-delà, et même de revenir sur des fouilles, sur des travaux réalisés avec un autre état d'esprit.
Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a aussi les écoles d'archéologie qui évoluent. Hein. Jusqu'à récemment, j'enseignais encore à l'Université Paris-Nanterre, et maintenant, on apprend aux étudiants à, comme des médecins, les médecins font des listes de diagnostics et ensuite ils prennent la maladie qui vous correspond le mieux. Et ben nous, les archéologues, on fait pareil maintenant. On fait des listes d'hypothèses et avec les arguments et les preuves tangibles qu'on a, on essaie de trouver la plus plausible, mais sans jamais oublier les autres. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, qu'est-ce qui nous permet de faire l'hypothèse la plus plausible? Eh bien, c'est de se raccrocher à la science dure, aux preuves génétiques qui nous permettent de revenir, par exemple, sur le cliché de la femme blanche ou presque blanche, aux yeux bleus, alors que ce n'est pas le cas, nous le savons maintenant.
C'est pas le cas. Et donc, dans ce film Lady Sapiens, c'est Evelyne Heyer, hein, la généticienne du Musée de l'Homme, qui le rappelle qu'au fond, alors la femme des origines, hein, puisqu'on parle de représentation, elle était plutôt athlétique, hein, plutôt sportive, plutôt vraiment capable d'assurer des marches résistantes, et sa peau était probablement noire, en tout cas foncée.
Oui, tout à fait. Evelyne a réussi à montrer que le blanchiment de la peau arrive très tard en Europe, aux alentours de 5000 avant notre ère, avec la néolithisation.
Néolithisation, c'est-à-dire sédentarisation, et depuis longtemps dans des régions plus froides, Europe ou Asie.
Hein. Exactement, avec l'élevage et l'agriculture bien installés. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas dans nos musées de préhistoire, puisque malheureusement, les représentations encore de nos ancêtres ont du mal à suivre l'évolution de la science.
Voilà pourquoi vous avez voulu, j'imagine, mais oui, je vois bien, Éric Pincasse, que vous voulez parler, faire ce film. Ça doit nourrir aussi votre imaginaire et votre envie de montrer une autre image, en l'occurrence des femmes dans la préhistoire.
Oui, et puis parfois de défricher des sujets qui n'ont pas été forcément, en tout cas, exposés au grand public avec le retentissement qu'on aurait souhaité. Et la couleur de peau, dont parlait Jennifer, c'est vraiment important. Et moi, ce que j'ai appris, par exemple, en travaillant sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas que, le degré d'ensoleillement qui joue sur la couleur de peau avec la sécrétion de la mélanine lorsqu'on vit sous des latitudes où, effectivement, on a besoin de protéger sa peau. Et lorsqu'on vit sous des latitudes plus claires, pour mieux synthétiser la vitamine D, eh bien, effectivement, la peau va s'éclaircir. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est aussi l'alimentation qui joue un rôle important. Et la néolithisation dont parlait Jennifer, et lorsque nous devenons agriculteurs-éleveurs, on change d'alimentation. On mange une alimentation beaucoup plus, je dirais, chargée en céréales et plus pauvre en vitamine D. Et du coup, eh bien, le corps a toujours des réponses assez miraculeuses pour s'adapter. Et pour mieux synthétiser la vitamine D, la peau va se dépigmenter.
Ça, c'est vraiment une évolution. Et ça doit donner aussi des idées aux réalisateurs que vous êtes. Parce que du coup, c'est montrer, Thomas, en image, autre chose. D'autres femmes de la préhistoire qu'on imaginait. Au fond, nos auditeurs sur Facebook réagissent en disant « mais c'est un peu comme Néandertal, on n'a plus l'image de la brute. Et maintenant, la femme, on n'a plus l'image de la femme soumise, blanche, petite, au fond de sa caverne, en train d'attendre monsieur. On va voir que ce n'est absolument pas le cas. »
Tout à fait. Je me souviens, quand on était en train de préparer le documentaire, je m'étais entretenu avec Eric Trinkos, alors qui n'est pas dans le documentaire, c'est un très grand paléanthropologue américain. Et il a notamment travaillé sur la forme des Vénus pour savoir si, en effet, ces formes replètes, un peu fortes,
des
étaient à l'image
des
femmes de la préhistoire. Et en analysant les squelettes, puisque c'est vraiment un grand spécialiste du squelette fossile, eh bien, il a dit, mais non, pas du tout. En fait, ce sont des athlètes. Et, il me dit, si vous voulez vous représenter à quoi pouvait-elle ressembler, imaginez Serena Williams. Voilà, ça c'est une... Alors je ne dis pas que Serena Williams est une femme préhistorique.
Non, absolument pas.
Je dis que les femmes préhistoriques étaient aussi athlétiques que l'est Serena Williams.
Et c'était de cette beauté-là dont on parle, même si, alors vous m'avez amené, je vais le décrire à nos auditeurs à la radio, l'œuvre d'un artiste qui sculpte exactement cette Vénus de Renoncourt, la dernière trouvée en France il y a 70 ans et qui a effectivement des formes replètes et qui illustre la fécondité. Mais donc à l'époque, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de représentations possibles et imaginables et attention aux clichés dans tous les sens. Alors vous, pour représenter tout ça, Thomas Sirotto, vous avez choisi les outils du jeu vidéo, notamment du jeu Far Cry
Primal.
Alors pour ceux qui connaissent, c'est un univers assez spécial, mais qui va très bien pour déconstruire nos clichés et pour nous montrer, mettre en image ces femmes de la préhistoire. On va en parler dans quelques instants autour de la question de toutes ces idées reçues sur les femmes de la préhistoire et comment se les représenter autrement. Mais je vous propose avant de plonger dans Lady Sapiens, de nous représenter cette fois-ci, allez, on inverse tous les regards, les hommes de la préhistoire, ou plus exactement l'homme de Cro-Magnon dans la voix des quatre barbus sur RFI.
C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro,
l'homme de Man,
l'homme de Gnon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, il
chassait l'ours et la panthère,
en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit,
en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil.
L'homme de Cro,
l'homme de Mar,
l'homme d'Ognon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, c'est pas du bidon. Vous entendez même chantonner, vous avez amené les paroles. Thomas Sirotto, c'est quand même trop bien ça.
C'était une comptine que je chantais quand j'étais scout il y a très très longtemps.
Et voilà.
Donc ça me fait beaucoup rire.
Et là, on se rend bien compte des clichés. La femme de Cro-Magnon, je pense qu'elle n'était pas bidon non plus autour de la question.
Loin de là.
Loin de là. Hein. Comment représenter les femmes de la préhistoire? On inverse, vous l'avez compris, la proposition et notre regard aujourd'hui autour de Lady Sapiens. Film documentaire inédit réalisé donc par vous, Thomas Sirotto. Le co-auteur de ce film, c'est vous, Éric Pincasse. Et vous êtes en direct avec nous en compagnie de la préhistorienne Jennifer Kerner, qui a supervisé, elle, l'édition du livre Lady Sapiens, dont nous avons un exemplaire, chers amis auditeurs, à vous offrir, auditeurs et auditrices, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question « Comment représenter les femmes de la préhistoire ?» Encore faut-il les reconnaître pour ce qu'elles sont après plus d'un siècle de déni, comme vous allez le découvrir tout de suite dans cet extrait de Lady Sapiens, où l'on écoute le célèbre préhistorien Henri de Lumley, découvreur entre autres du crâne de Totavelle.
Dans les grottes des Balsires aussi, près de Vintimille en Italie, un squelette a été mis au jour en 1872. Les traces d'une puissante musculature et sa stature imposante ont trompé les archéologues de l'époque. Pour eux, il ne pouvait s'agir que d'un homme.
Voici la sépulture de la Dame du Cavillon, qui avait été appelée autrefois l'homme de menton, parce que les os sont très robustes et on pensait que c'était un homme. Mais en fait, ce n'était pas un homme, c'est une femme costaud, une matrone. Mon épouse, Marie-Noël Delomelay, en dégageant la sépulture qui était conservée au musée de l'homme, s'est aperçue que l'ossillac avait une grande cavité très élargie et que c'était une femme.
C'est donc grâce aux mesures des courbures de l'os du bassin que l'homme de menton est devenu la Dame du Cavillon.
Et voilà comment l'homme de menton était en fait la Dame du Cavillon. Cela a de quoi nous faire réfléchir, Jennifer Kerner. C'est en tant que préhistorienne que je vous interroge, d'autant que vous travaillez beaucoup sur la question des tombes et des rites funéraires, parce qu'aujourd'hui, les découvertes se multiplient dans ce sens-là. Je pense notamment à une viking, enfin une tombe viking où il y avait des énormément d'armes, d'outils, des parures formidables. Donc c'était un guerrier viking, et puis non. En fait, c'est une viking. Et donc les découvertes se multiplient dans ce genre-là.
Dans ce sens-là, oui. Et encore une fois, grâce à toutes les méthodes d'investigation moderne, puisque bon, là, il se trouve que le bassin est bien préservé, donc tant mieux. Mais quand on n'a pas le bassin...
Quand on n'a pas les os.
Et quand on n'a pas les os, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a différentes méthodes. On a bien sûr l'ADN. On a aussi l'amélogénine, maintenant, qui permet de...
L'amélogénine,
oui, oui. C'est une protéine de l'émail dentaire qui vous permet de voir si l'individu est porteur d'un chromosome Y. Donc sinon, bah, c'est que c'est bien une dame. Et effectivement, grâce à toutes ces nouvelles technologies, on relie des tombes dont on avait fait une lecture uniquement sociale, avec nos projections de
avec
l'époque.
Avec nos préjugés de l'époque, c'est ça. Et on découvre, et d'ailleurs c'est très bien écrit dans cet ouvrage Edith Sapiens, que les femmes sont sur tous les fronts et qu'il y a des femmes de pouvoir aussi.
Ah bah oui, alors quelle était la forme de pouvoir, ça c'est difficile à dire.
Et c'est ça.
Mais quand on voit une sépulture comme celle de la Dame du Cavillon, on ne peut être que persuadé que cette dame avait une importance dans son groupe humain, puisqu'on lui a laissé des parures avec des centaines de crashes de serre qui sont des éléments qui sont difficiles à récolter. Hein. Ça ne pousse pas sur les arbres, hein. C'est perdu une fois par un animal, et puis bah, vous êtes obligé de vous les troquer de groupe en groupe. Il n'y a pas des serres partout, donc ça peut venir de loin. Donc, ce sont des choses que l'on conserve, qui ont une certaine valeur, et pour en avoir mis plus d'une centaine dans la tombe de cette dame, c'est bien qu'elle devait avoir une place à part.
Une place à part et des parures aussi, parce que ces femmes de pouvoir ou ces chasseresses, et on va venir à la manière dont vous les représentez, hein, Thomas, elles étaient parées, elles avaient des ornements, enfin, il y avait vraiment, il y avait une vie intime, certainement, une vie de séduction aussi, enfin, on voit bien qu'elles étaient beaucoup plus proche de nous,
ah oui,
qu'on ne le pensait.
Elle prenait grand soin de leur apparence, et quand on regarde la diversité des formes de parures au paléolithique, on est très surpris. Parce que, par exemple, cette dame a un petit bonnet brodé, elle a aussi un jamblet, donc un petit bracelet sur le mollet, mais on connaît aussi des représentations dans la grotte de la Marche de ceintures brodées, on connaît aussi des représentations de bracelets de cheville, on a retrouvé des bracelets pour le poignet cette fois-ci en ivoire de mammouth. On a même une très probable boucle d'oreille en dents d'ours dans une grotte, la grotte de Grimaldi en Italie. Donc leur boîte à bijoux était exceptionnelle, tout simplement parce que ça dit quelque chose d'elles et ça dit quelque chose de leur place dans la société. On se représente grâce à tout ça.
C'est ça, on se représente grâce à sa richesse et on est bien loin de l'image de la femme qui est traînée par les cheveux dans sa caverne par un homme préhistorique avec sa massue. On est bien loin de cette image-là. Comment est-ce qu'on travaille pour écrire et pour représenter ça, Eric, l'écriture, comment est-ce qu'on écrit? Parce que vous avez écrit aussi au plus près, essayer d'aller dans l'intimité. Alors c'est pareil, comment on évite les clichés? Parce qu'on ne sait pas, il faut que vous rajoutiez.
L'idée déjà, c'était d'essayer de la mettre en scène, cette Lady Sapiens, dans sa pluralité, hein, on l'a souligné tout à l'heure. et la mettre en scène dans son parcours de vie, celui d'une jeune femme qui va grandir, qui va se socialiser, qui va apprendre, qui va rencontrer un homme, pourquoi pas, pour avoir un enfant avec lui, devenir une mère, devenir une grand-mère. C'est un peu tout ce parcours de femme du paléo qu'on a voulu restituer. Et la
en
base...
sachant qu'à chaque fois, il y a toujours le danger, parce que la base est totalement scientifique.
Oui, voilà, c'est
mais
ça.
Après, la pierre angulaire, raconter voilà, une histoire.
La pierre angulaire, c'est la science. Quels sont les indices scientifiques voilà. dont nous pouvons disposer aujourd'hui ? Qu'est-ce que peut nous apporter la paléontologie, la tracéologie, l'ostéologie, l'anthropologie ? Et puis quand même, un recours absolument fondamental, notamment lorsqu'on touche à l'intime et à la culture qui ne s'imprime pas forcément dans les fossiles, mmh. c'est aussi le caractère ethnographique, les sources ethnographiques.
C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs pour Tout essayer de comprendre un peu ou refaire les gestes que faisaient les artisans avec leurs outils pour essayer de comprendre un peu comment...
De voir comment dans des peuples qui vivent au plus près de la nature, dans un environnement évidemment qui n'était pas forcément semblable à celui du paléo parce que ne serait-ce que les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes il y a 40 000 ans, en tout cas, comment ce rapport à la nature conditionnait les modes de vie et les anthropologues, les ethnologues qui ont pu observer les peuples de chasseurs-cueilleurs nous proposent des modèles. Ces modèles, là aussi, ouvrent des pistes. Et nous, pour raconter cette histoire, du coup, on a surfé sur toutes ces pistes, sur tous ces indices pour essayer de créer un récit le plus crédible possible et le plus riche scientifiquement.
Lady Sapiens, c'est à voir, on l'a dit jeudi soir sur France 5 et ça sera sûrement rediffusé ensuite. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur ces images hein, et ces images de Lady Sapiens avec vous, Thomas Cirotto, parce que je ne sais pas si c'est pour retomber dans un autre cliché ou pas, mais aujourd'hui, dans notre monde, on joue aux jeux vidéo et vous vous êtes inspiré de l'univers du jeu vidéo et pas n'importe lequel, Far Cry Primal d'Ubisoft. Pourquoi ? Pour faire bouger, pour donner vie à ces Lady Sapiens et Mister Sapiens ?
À la fois pour raconter d'une manière la plus fantastique dans le sens noble du fantastique, mm-hmm. hein, pas dans le sens délirant, voilà. On voulait évidemment trouver un moyen de renouveler un petit peu le genre du documentaire scientifique. Donc on voulait offrir, notamment pour les scènes de reconstitution, aux spectateurs de nouvelles images, qu'elles soient à la fois... qui correspondent à la fois à nous, ce qu'on avait vu dans notre enquête scientifique. Et c'est là que Jacques Malaterre a eu une très bonne idée, puisqu'il a...
Jacques Malaterre, qui était réalisateur notamment de Qui a tué Néandertal, qui et d'autres grands films.
Il nous a aidé à l'écriture de Qui a tué Néandertal, et c'est le réalisateur de L'Odyssée de l'espèce, de A.O. le dernier Néandertal, et d'autres films aussi sur la préhistoire. Et il a été conseiller artistique sur ce jeu vidéo Far Cry Primal. Il a été invité à Montréal. Et il s'est rendu compte que justement les concepteurs du jeu vidéo s'étaient vraiment entourés de tout un tas de spécialistes pour la reconstitution des campements, des personnages, des décors, des vêtements, de la faune, de la flore, enfin, et de tous les paysages d'une manière assez pointue et vraiment assez précise. Et du coup, on est allé les voir Ubisoft en leur proposant notre projet sur les femmes de la préhistoire, notre enquête sur les Lady Sapiens, et ils ont été tout de suite emballés. Et c'est là où on a commencé à travailler avec eux pour voir comment on pouvait faire à l'intérieur de ce jeu pour réaliser des images exclusives. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que Far Cry Primal, c'est avant tout un jeu de conquête de territoire qu'on joue à la première personne, c'est-à-dire qu'on est à la place de la vision d'un chasseur préhistorique qui va comme ça tuer tout un tas d'autres membres de tribus pour gagner son territoire. Donc c'est un jeu assez violent et qui pour nous est évidemment pas du tout l'objectif.
L'univers de Lady Sapiens.
Non, c'est pas du tout l'univers de Lady Sapiens. Par contre, ce qui m'avait vraiment plu à travers moi quand j'ai déambulé dans le jeu, c'était qu'ils avaient vraiment reconstitué un quotidien extrêmement précis, extrêmement réaliste, avec tout un tas de petites activités fantastiques et puis évidemment des décors majestueux qui nous ont extrêmement bien servi pour justement illustrer Lady Sapiens.
Eric ?
Parce que ce qu'il faut quand même souligner, c'est que depuis quelques années, Ubisoft produit des jeux avec un fond historique absolument remarquable et ils veulent faire du jeu vidéo un outil de médiation culturelle et historique. Et le projet Lady Sapiens répondait tout à fait à cette ambition.
Et qu'en dit justement la préhistorienne que vous êtes, Jennifer Kerner, quand vous regardez, c'est vrai que c'est assez bluffant cette reconstitution d'univers, mais j'en reviens à ma question du départ, comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on tombe pas dans d'autres clichés, parce que c'est nous, ce sont des techniques ultra-modernes, de jeux vidéo, d'immersion, qu'on applique à de la préhistoire, donc on sent bien qu'il y a des choses très justes, mais il y a plein des choses qu'on... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il y a des choses qu'on est obligé d'inventer.
C'est ça.
Alors, on est obligé de se trouver des garde-fous pour essayer d'inventer dans un champ des possibles raisonnables. C'est pour ça que la comparaison avec les populations de chasseurs-cueilleurs connues aide. Mais par exemple, dans Far Cry Primal, j'ai d'ailleurs dédié deux vidéos sur ma chaîne à la question, vous avez des tops et vous avez des flops. Vous avez par exemple beaucoup, beaucoup de céramique. Bon, on sait qu'on a deux ou trois figurines en céramique autour de sites de Pavlov, mais on n'a pas
C'était pas très courant au Paléo.
Non. Donc on ne peut pas... C'est pas une reconstitution historique, Far Cry et Ubisoft, mais ils ont quand même une véritable volonté de se mettre au plus près. Et puis pour le reste, eh bien, évidemment, il y a l'imagination et la reconstitution grâce à des données modernes.
C'est ça, hein, c'est vraiment l'extrêmement moderne pour reconstituer toujours au plus près une réalité scientifique autour de la question comment représenter les femmes de la préhistoire au-delà donc des clichés en tout genre. On continue de rebattre les cartes et surtout tous nos préjugés grâce aux préhistoriens, on l'a dit, anthropologues, paléontologues que vous avez interrogés dans ce film documentaire et dans cet ouvrage, Lady Sapiens. En nous arrêtant maintenant sur un aspect essentiel, hein, c'est celui de la maternité, de l'allaitement, de l'éducation des enfants par tout le groupe, c'est important de le rappeler, mais aussi du rôle des grands-mères. Tiens donc, comment les familles élargies des premiers humains ont été moteurs de toute notre évolution, c'est une piste de recherche, une hypothèse très sérieuse, développée notamment par le paléoanthropologue français Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France et directeur du département de l'évolution de l'Institut Max Planck de Leipzig, et corroborée par les travaux de l'anthropologue américaine Kristen Hawkes. On va les écouter tous les deux dans votre documentaire Lady Sapiens, dans cette extrait où l'on retrouve aussi, pour démarrer, la voix de la préhistorienne Sophie de Beaune, conseillère scientifique du film.
Les femmes avaient à peu près 5 ou 6 enfants en tout dans leur vie, pas plus. Pourquoi ? D'abord parce qu'on sait que chez les chasseurs-cueilleurs, très souvent, les grossesses sont espacées de 2 à 3 ans. Par ailleurs, il y avait une forte mortalité infantile. Donc les femmes n'étaient pas entourées de tout un tas de petits-enfants en bas âge simultanément.
Chez Homo sapiens, la durée de l'allaitement diminue par rapport à nos ancêtres Homo erectus.
Ce qui est très particulier chez l'homme, c'est que alors que la croissance est très très longue, eh bien l'âge auquel les petits sont sevrés, paradoxalement, a tendance à devenir de plus en plus précoce. Et ça, c'est lié à une problématique tout à fait simple, c'est qu'une fois que les enfants sont capables de manger de la nourriture solide, eh bien, les mères peuvent partager avec d'autres adultes le fardeau énergétique que représente le développement de leur progéniture. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on appelle des reproducteurs coopératifs. Et ce comportement-là a une influence extraordinaire sur l'organisation des groupes humains.
Des grossesses espacées pour ne s'occuper que d'un enfant à la fois, dont elle partageait la charge, Lady Sapiens, est loin de l'image de la mère accaparée par sa nombreuse progéniture. Et parmi les aides que reçoit Lady Sapiens, celle qui vient des grands-mères tient une place tout à fait à part. Ces femmes âgées garantissent une quantité d'aliments très importante.
Ces femmes plus âgées soutiennent ainsi la fécondité des femmes plus jeunes. Ces dernières peuvent ainsi avoir leur prochain bébé plus tôt sans que l'enfant sevré ne meure, parce que justement, il est nourri par ses grands-mères.
En plus de participer à l'alimentation des jeunes enfants, elles transmettent aussi leur savoir.
Les sociétés humaines sont des sociétés de partage, de redistribution, mais sont aussi des sociétés d'apprentissage, d'innovation et de transmission de ces innovations. Et cette transmission, évidemment, elle demande du temps. Et c'est aussi un facteur qui pèse en termes de sélection naturelle pour, dans le fond, pousser les êtres humains vers, par exemple, une longévité de plus en plus grande. L'espèce humaine est une des seules, il y en a quelques autres, mais il y en a très peu, c'est une espèce de mammifère dans lequel des femelles ménopausées ont encore, j'allais dire, une espérance de vie assez grande. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un bénéfice pour le groupe et pour leurs descendants.
Vive les grands-mères et longue vie aux grands-mères, ça fait partie des choses qu'on apprend vraiment. Vous m'avez rappelé, Thomas Sirotto, qu'il faut rendre à Sarah Hurdy ce qui lui appartient, c'est-à-dire que vous avez interrogé Jean-Jacques Hublin sur ce lien, justement, cette, la manière...
Ce lien dont... mère-enfant, tout à fait, quel travail Sarah Hurdy depuis maintenant plus de 30 ans à travers l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des primates, l'anthropologie, l'étude des hommes, et c'est en faisant des liens comme ça entre ce qu'elle voit chez les primates et ce qu'elle voit dans nos comportements, qu'elle arrive à comprendre comment nos sociétés humaines se sont construites dans leurs comportements, et notamment le lien mère-enfant qui est essentiel pour la survie et l'établissement de la
confiance. Donc c'est le lien mère-enfant et c'est aussi l'ouverture ensuite au reste du groupe et de la société qui pouvait aussi prendre en charge les enfants. C'est aussi le rôle des grands-mères. Sophie Archambault de Beaune, conseillère scientifique du film, raconte que la répartition des tâches se faisait finalement moins entre les hommes et les femmes qu'en fonction des compétences de chacun. On parle du paléolithique, hein, pas du néolithique, mais on parle bien du paléolithique, Jennifer Kerner.
Oui, tout à fait, c'est plus que probable. Alors pour nous, c'est difficile de le prouver, parce que bien c'est évidemment, ça. Un silex ou un outil en os ne va pas nous dire le sexe ni de son créateur, ni de son propriétaire utilisateur.
C'est ça.
Mais quand on est dans une démographie aussi réduite, et qu'on a besoin d'être dans une efficacité d'action, eh bien ça paraît absolument naturel de plutôt attribuer les tâches au mérite, à la passion, au talent, qu'au genre. Sachant qu'on ne sait absolument pas d'ailleurs s'il n'y en avait que deux.
S'il n'y avait que deux
genres. Que deux genres, après tout. On n'y était pas.
Ah, vous nous ouvrez encore plus loin les questions, ce qu'on aime bien. D'ailleurs, dans cet ouvrage, hein, vous abordez aussi, à vos risques et périls, tout l'aspect séduction, sensualité, sexualité de la femme de la préhistoire. C'est vrai qu'on se dit, même sans pousser le bouchon trop loin, que ces Vénus, comme celles que j'ai sous les yeux, représentaient la fécondité, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça, essayer de s'approcher, de donner un portrait nuancé d'une femme, artiste aussi probablement, respectée, honorée, mère, amante aussi?
Alors, on a un site archéologique français qui est particulièrement riche pour cette question, c'est le site de La Marche. À La Marche, on a des vestiges tout à fait particuliers, puisque ce sont des petites plaquettes qui ne répondent pas au code de ce que j'appelle un peu pompeusement l'art officiel, c'est-à-dire les Vénus, les grandes fresques dans les grottes. On a l'impression d'être face à des carnets de croquis d'artistes. Et d'ailleurs, ils traitent de sujets très différents de ce qu'on trouve ailleurs dans l'art mobilier ou dans l'art pariétal. Ils vont croquer des visages qui sont parfois un petit peu caricaturaux, et ils vont croquer des situations quotidiennes de gens un petit peu avachis, on dirait un peu les femmes au tub. Vous voyez, on rentre dans une intimité particulière. Et dans cette collection, eh bien, on a pas mal de scènes de coït, donc qui semblent quand même nous donner un regard. Alors, c'est peut-être un regard un petit peu fantasmé de la part de l'artiste, ou une blague grivoise, mais ça nous ouvre quand même une vraie porte sur l'intimité de l'époque, je pense.
Et ça nous ouvre une autre porte, cette fois-ci sur l'intimité, non pas de la préhistoire, mais de notre pop music, sur un autre genre de Vénus, dans sa version originale et originelle, signée Shocking Blue sur RFI, I'm Your Venus.
Well, I'm your Venus.
cesse de nous rester dans la tête, cette Vénus-là, et de ne pas nous lâcher. Peut-être même pourrait-elle se substituer aux préjugés que nous continuons de véhiculer sur les femmes de la préhistoire, trop souvent absentes du tableau de chasse ou effacées du tableau. Nous découvrons Lady Sapiens, un livre et un film documentaire inédit, signé par nos invités, le réalisateur Thomas Sirotto, le journaliste Éric Pincas et la préhistorienne Jennifer Kerner. Autour de la question comment représenter les femmes de la préhistoire, comment sortir les femmes de la préhistoire de tous les clichés, question que nous avons posée à une autre préhistorienne, la paléoanthropologue, qui est également pêcheuse de pensée en rond, Sylvana Condemi. Elle était récemment notre invitée pour la réédition en poche de Dernières nouvelles de Sapiens. On l'écoute.
C'est-à-dire que ce qui se passe pour les femmes, c'est toujours une projection de notre monde actuel. Le problème, c'est qu'on a du mal à sortir de notre monde actuel pour envisager que les choses pouvaient être vraiment différentes. Donc, la question qu'on pourrait poser, c'est quels sont les éléments aujourd'hui qui permettent de distinguer les différentes tâches pour les hommes et les femmes? Est-ce qu'on reste dans un niveau de préjugés, de croyances, ou est-ce que vraiment on a des éléments tangibles qui nous permettent vraiment de dire avec certitude que les femmes étaient déjà dans la préhistoire et dans la préhistoire lointaine plus inféodées à la cueillette que ne l'étaient à la chasse? Quels sont les éléments vraiment tangibles que nous avons? Par exemple, un autre préjugé qu'il y a, c'est que les femmes ne faisaient pas du tout d'outils. Bon. L'idée, c'est que le tailleur de pierre, c'est un homme. Moi, j'ai du mal à penser une femme dans la cuisine qui, face à un couteau en pierre, n'est pas capable de le réaffûter. J'ai du mal à croire qu'elle attendait que monsieur rentre pour réaffûter son couteau.
Elle n'a pas tort, Sylvana Condemi, hein. Jennifer Kerner, on a du mal à croire que les femmes de la préhistoire ne fabriquaient pas d'outils, ne peignaient pas dans les grottes. On a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui, heureusement.
Oui, bien sûr, c'est parfaitement illogique. En plus, on a des preuves qui nous montrent des déplacements de population. C'est-à-dire qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est un camp principal, d'ailleurs, qui va bouger une à deux fois par an, hein, pas beaucoup plus, ils ne passent pas leur temps à se balader. En revanche, ils vont envoyer des petits groupes à la mine de silex, à la mine d'ocre, ou suivre un troupeau d'aurochs. Et ces gens-là doivent être complètement autonomes. Hors de question de devoir entraîner une cuisinière à chaque fois. Et donc les hommes comme les femmes savent repérer la nourriture, faire les outils de base, transformer la nourriture et se débrouiller.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Éric Pincas, Thomas Sirotto, dans cette enquête énorme, hein, vous avez rencontré des dizaines de spécialistes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? On a parlé de ces femmes qui sont sûrement artistes, artisanes, pas seulement du rôle des grands-mères, du rôle de la famille élargie, d'une sexualité, sensibilité. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris?
Alors, une des découvertes qui a été extrêmement étonnante, c'est celle menée par un chercheur qui s'appelle José Braga, qui participe aujourd'hui à pouvoir identifier le sexe des fossiles de la manière la plus précise possible, en réduisant au maximum le risque d'erreur. Hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de la dame de Cavillon, du Cavillon, rappelons qu'elle s'appelait l'homme de Menton en 1872.
C'est ça.
Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait l'avant-première du film la semaine dernière, ça nous est beaucoup revenu aux oreilles. Les gens étaient scotchés de se dire, tiens, on a aujourd'hui un indice incroyable qu'on ne connaissait pas, un petit organe dans l'oreille interne qu'on arrive à restituer aujourd'hui grâce à des images de scan 3D. Ça s'appelle la cochlée. Et ce petit organe, il a une petite forme d'escargot et il est différent selon qu'on est une femme ou un homme. Ça, c'est complètement fou parce que ça ouvre des perspectives pour les découvertes à venir, pour la datation de fossiles qui ont des millions d'années. Alors, faut-il encore retrouver le crâne, hein, puisqu'on disait tout à l'heure,
oui,
qu'il faut toujours quand même qu'il y ait la présence des ossements.
Voilà, il faut qu'il y ait le crâne pour qu'il y ait la cochlée, ou il faut qu'il y ait un peu pour prouver de l'ADN. Des chercheuses comme Sylvana Condemi ont travaillé sur les groupes sanguins, ouais, qui étaient les mêmes que les nôtres, hein, de ces groupes d'humains préhistoriques. Donc, on ne trouve pas de sang, mais on peut récupérer un peu d'ADN, il peut y avoir un morceau de cochlée. Voilà, il y a plein d'indices
Tous ces nouveaux outils, pareil pour ce qui touche au lien mère-enfant, à l'allaitement, au sevrage, l'étude des dents, l'étude des isotopes. On arrive à savoir aujourd'hui, effectivement, à quel âge on arrive à sevrer un enfant grâce aux isotopes du calcium, du lait maternel. Plein de choses comme ça étonnantes qu'on ne soupçonne pas. Et surtout, en fin de compte, arriver à créer ce petit miracle, je dirais, de faire communiquer toutes ces disciplines entre elles. Parce que souvent, les chercheurs travaillent un peu dans leur labo, de manière un petit peu cloisonnée. Et ce qui est toujours assez jouissif, je dois dire, c'est d'arriver à un moment donné à tisser une trame qui relie tous ces indices et qui finissent par nous brosser un scénario absolument exceptionnel.
Thomas Cirotto.
Oui, et moi, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, justement. On parlait des études de Sarah Blaffer-Hardy tout à l'heure. Eh bien, c'est tous ces travaux sur la naissance de l'empathie qui changent complètement, en fait. L'empathie, c'est donc la capacité à ressentir les émotions de l'autre. Et elle fait remonter la naissance de l'empathie il y a au moins 2 millions d'années. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on imaginait, l'homme préhistorique n'est pas une brute cruelle et sauvage. Et j'ai d'ailleurs une petite histoire là-dessus. Est-ce que vous savez, Isabelle, ce que raconte Lady Sapiens le soir à ses enfants avant de s'endormir?
Allez-y, Thomas.
Une préhistoire.
Oh, joli! On va s'arrêter là-dessus. Jennifer Kerner, vous avez mieux comme mot de la fin?
Ah bah non, là, j'ai pas mieux, désolée.
Alors, merci infiniment à tous les trois d'être venus en direct. Jennifer Kerner, je renvoie évidemment sur votre chaîne YouTube Boneless Archéologie, l'archéologie sans os, sans os. Ça vaut le détour, on en reparlera peut-être prochainement. Bien sûr, sur cet ouvrage que vous avez donc coécrit et supervisé, Lady Sapiens, paru aux éditions des Arènes, dont nous avons, chers amis, auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Et puis, bien sûr, je vous renvoie, chers amis, auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs, sur votre film documentaire réalisé par vous, donc Thomas Cirotto, coécrit avec vous, Éric Pincas, Lady Sapiens, première diffusion ce jeudi 30 septembre sur France 5, qu'on se le dise. Et vous revenez quand vous voulez avec d'autres films ébouriffants dans vos bagages.
On prend le rendez-vous.
Autour de la question des petites et grandes préhistoires que racontent les femmes préhistoriques à leurs enfants, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec une invitée spéciale, l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, qui dirige le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. Autour de la question, y a-t-il une vie au-delà de la Terre ? Nathalie Cabrol nous fera partager ses recherches. À l'écoute, c'est le cas de le dire, d'autres formes de vie dans l'espace, bien sûr, sur Mars notamment, mais aussi sur Terre, dans les milieux les plus extrêmes, sous la mer et dans les plus hauts déserts. Une quête de vie qui est aussi une leçon de vie universelle vertigineuse. À suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.